Salut les dresseurs, salut les dresseuses, c'est Lou, votre journaliste Ouest France, expert en Pikachu, et je vous accueille dans notre podcast Le Poké Talk pour tout savoir sur Pokémon en compagnie de Malison, le célèbre professeur lapin. Actu, décryptage, jeu rétro, on vous dit tout. Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Poké Talk, votre podcast Ouest France dédié à Pokémon. Et comme toujours, je suis en compagnie de l'inarrêtable Malison. Comment ça va mon cher Mali ?
Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Lou, et moi ça va pas mal. Je suis content d'être là, comme d'habitude.
Alors écoute, c'est assez fou, on sent que le jeu sort maintenant, on va dire, dans un gros mois, on est le 17 octobre au moment où on enregistre du coup cette... Mais c'est même pas un gros mois d'ailleurs, c'est un mois et un jour en fait, voilà. Finalement. C'est le 18 et la communication accélère grandement, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent par petites bribes quand même, même si on sent que ça s'intensifie, mais il y a encore pas mal de choses qu'on va pouvoir évoquer du coup dans cet épisode du Poké Talk, le troisième déjà, si vous nous découvrez maintenant, eh bien sachez qu'il y a deux épisodes qui sont disponibles si vous voulez les écouter sur le mur des podcasts de Ouest France ainsi que sur ma chaîne YouTube et également je vous invite à découvrir la chaîne YouTube de Malison, le professeur lapin, dans laquelle vous découvrirez plein d'informations sur Pokémon et pas seulement évidemment sur Écarlate et Violet, même si c'est encore une fois le sujet de cet épisode. On va parler des derniers trailers, des dernières informations, notamment aussi de la fonctionnalité du pique-nique, parce que pourquoi pas, il en faut bien, des nouvelles créatures, et puis on évoquera aussi nos champions préférés à l'occasion de la révélation de Machine, la troisième championne d'Écarlate et Violet. J'ai failli dire épée et bouclier encore une fois, décidément, ça va finir par rentrer. Troisième championne d'Écarlate et Violet qui a été révélée déjà 3 sur 8. Peut-être qu'on en aura 4, hein, comme ça on fera la moitié. Mais au moins, il y aura encore des choses à découvrir quand le jeu sortira. Une fois n'est pas coutume, on va commencer tout de suite par évoquer les tout nouveaux Pokémon. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on s'attarde sur le cas de Topico, et non pas Topiqueur. Mon cher Mali, est-ce que tu peux faire le point sur Topico, justement ? Quel est cet étrange Pokémon qui ressemble énormément à un Topiqueur ?
Bah déjà, faut dire que Topico, il a été révélé d'une façon assez étrange, puisqu'ils ont organisé une sorte de webinaire, donc c'est une sorte de séminaire sur Internet dans lequel on pouvait s'inscrire. On pouvait le regarder comme si c'était un direct et on voyait 5 spécialistes, entre guillemets, parler de Pokémon. Comme si vraiment c'était quelque chose de scientifique qui se produisait dans la vraie vie. Et donc, ils nous présentaient différents biomes, différents décors de Pokémon. Et à un moment, on voit cette bestiole, ce petit truc, enfin ce long truc bleu même, qui ressemble à un Topiqueur. Et on voit les spécialistes se poser des questions dessus. Est-ce que c'est un Topiqueur régional ? Est-ce que c'est autre chose ? Comment lui ? Et... la réponse, c'est que ce Topico, eh bien, n'a aucun rapport avec Topiqueur, si ce n'est une ressemblance. Alors on peut relier ça à une sorte de convergence évolutive, c'est-à-dire dans un sens plus scientifique, des espèces n'ayant pas de lien de parenté, mais qui ont évolué d'une façon similaire à cause de contraintes qu'ils ont rencontrées dans la vie. Je prends cet exemple, par exemple... le crocodile et l'hippopotame n'ont rien à voir, mais les deux ont les narines ainsi que les yeux sur le haut de leur tête. C'est parce que voilà, l'évolution a fait que, comme ce sont des animaux qui nagent beaucoup, qui chassent, et bien ils avaient besoin d'avoir à la fois des yeux au-dessus de la surface de l'eau et puis un mouvement et des yeux en dessous, je dirais. Puis bien sûr, de quoi respirer. Donc ce Topico, finalement, à part ressembler vite fait à Topiqueur, même dans son nom, eh bien, il n'a pas grand-chose, n'a rien en commun. C'est un Pokémon de type eau, que l'on connaît depuis nouvellement, et on n'a aucune idée, par exemple, d'à quoi ressembleront ses statistiques, s'il aura une évolution, s'il en a une, est-ce qu'elle ressemblera à 3 Topico pour faire un petit peu le parallèle avec Triopiqueur, ou est-ce que ça n'aura rien à voir ? Peut-être qu'il y aura plus d'individus, parce que c'est un Pokémon... qui est inspiré de l'anguille de jardin, qui sont des animaux marins qui vivent généralement par bandes de centaines d'individus. Donc si ça se trouve, on aurait une évolution avec non pas 3, mais beaucoup de bestioles dedans. Je sais pas. En tout cas, je trouve le principe assez amusant, peut-être légèrement facile pour faire de nouvelles entrées dans le Pokédex à moindre travail, moindre frais. Mais j'attends de voir ce que ça va donner en jeu. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, juste avant, donc, tu as dit un Pokémon bleu ou j'ai mal entendu ?
Oui, quand je dis bleu, oui, il est blanc, bleuté, oui.
Parce que j'allais dire, c'est la robe d'Internet qui revient, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est bleue? Parce que moi, je le vois blanc, effectivement.
Oui, je pense que c'est une sorte d'entre-deux, oui, oui.
Moi, qu'est-ce que j'en pense? Alors, moi, déjà, je pense qu'à l'origine, c'était une forme régionale, et ils se sont dit, tiens, allez, on va gonfler le Pokédex facilement, on veut dire que ça n'a rien à voir, on va s'inspirer de la convergence évolutive, du coup, et on va faire une nouvelle entrée sur un Pokémon, tout ça. Alors, à la fois, je trouve ça amusant de s'intéresser à la convergence évolutive et du coup d'introduire ce concept et de l'expliquer, parce que déjà les formes régionales, il y avait cette façon de s'approcher du côté de la nature en disant voilà, c'est la pression environnementale qui a créé par exemple le Goopix d'Alola, comme il est monté sur les sommets enneigés, il s'est adapté à cet environnement, il a pris le type glace, etc., etc. C'était rigolo, mais je trouve que là, ça, c'est un peu si jamais on découvre qu'il n'y a que deux ou trois Pokémon issus de la convergence évolutive, bah c'est vraiment trop gimmick, en fait. J'aimerais pas, en fait, qu'à chaque fois Game Freak ait l'idée d'un nouveau concept, mais qu'ils aillent pas jusqu'au bout et que ce soit juste deux créatures qui soient concernées. Ça, ce serait vraiment dommage. Et comme tu le disais, j'espère vraiment que son évolution va être très originale. Pourquoi pas un énorme Topico plutôt qu'un trois têtes, ou alors plein de têtes, effectivement, j'en sais rien. Ou alors on le fait sortir, pourquoi pas on lui fout des pattes et des bras. Ça changera énormément par rapport à Trio Picker, pour le coup. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop non plus de similarités et que ça fasse pas, en fait, une fausse forme régionale. Parce que sinon, c'est... clairement, c'est beaucoup trop artificiel, en fait, à mon sens.
Oui, voilà. Oui, t'as tout à fait raison. J'espère que oui, qu'on va pas en compter seulement deux ou trois, parce qu'on aura vraiment l'impression qu'ils arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, sans trop qu'on comprenne pourquoi.
Et en vrai, la seule bonne raison pour laquelle on pourrait avoir de coup de la convergence, parce que jusque-là, je me dis, à quoi ça sert, en fait, d'avoir inventé ça alors que une forme de Topicœur aurait pu suffire, c'est que on pourrait avoir dans une même région et Topicœur et Topico, ce qui devrait être le cas d'ailleurs à Paldea. La convergence évolutive, ça devrait permettre ceci, en fait. On n'aura pas besoin d'avoir la forme régionale uniquement dans cette région, vu que l'autre pourra coexister, vu que c'est pas la même espèce, hein, on le rappelle.
D'ailleurs,
sauf que sur une capture d'écran du coup de Violet et Écarlate, on a pu voir un Axolotl classique, alors qu'à Paldea, il est censé avoir l'Axolotl de Paldea. Donc s'ils mettent quand même les formes régionales avec les formes originales dans une même région, ça risque de poser problème. Après, c'est une capture sur une équipe, donc peut-être que dans l'équipe, il y a un Axolotl qui est disponible d'une autre région, qui a été échangé, j'en sais rien tout, mais qui n'est pas disponible de manière sauvage. Enfin, j'espère qu'ils ne vont pas non plus aussi tout chambouler, parce que sinon, encore une fois, là, il n'y aura pas de différence entre convergence et formes régionales, en termes de gameplay, là je parle. Et ça, ça m'embêterait pour un souci de cohérence de gameplay, en fait, finalement.
En fait, je voulais ajouter cette référence à Axolotl, donc tu m'as devancé, donc c'est très bien. Je pense que peut-être ils veulent un petit peu se distancer et se détacher des données de l'ancien Pokémon, parce que pour l'instant, les formes régionales ont quasiment les mêmes statistiques que les premiers Pokémon. Je sais pas, c'est un truc qu'ils ont pas voulu, faire de retouches en même temps. Ce qui fait que si on avait un Topicœur régional, on aurait forcément quelque chose de rapide et de fragile, avec des statistiques dans l'ensemble relativement basses. Et ce que j'espère qu'ils feront, c'est que ce Topico n'ait absolument rien à voir niveau stats, qu'il ait pourquoi pas un total un peu plus élevé, ou son évolution bien sûr, qu'il ait pourquoi pas un autre investissement, peut-être que celui-ci sera très défensif, ça leur donne, je pense, plus de flexibilité dans le procédé, et j'espère qu'ils saisiront la balle au bon, et pas qu'ils resteront trop collés au Topicœur de base.
Alors, t'es beaucoup plus doué pour tout ce qui est stats que moi, mais alors de mémoire, je me trompe peut-être, il me semble qu'effectivement les formes régionales d'Alola ont exactement la même distribution de stats, mais je crois qu'à Galar, il y a quand même des stats qui diffèrent, c'est peut-être le total de base stats qui est identique, mais il n'y a pas des petites différences entre les formes habituelles et les formes de Galar quand même au niveau des statistiques sur certains?
En fait, que ce soit Alola comme Galar, il y a de légères différences du genre, tu prends 10 points sur une statistique, tu les retires à l'autre et tu fais des petits équilibrages comme ça. Ça reste vraiment des petits ajustements et je réfléchis, mais vraiment dans les pures formes régionales, il n'y a pas de grosses différences. Par exemple, un Pokémon très rapide et très offensif qui devient très lent et très défensif.
Cela dit, moi ça me choquerait pas hein, s'ils font une forme régionale qui change complètement de distribution de statistiques.
Bah, moi
c'est
non
une adaptation. Moi, j'aurais préféré ça limite que la convergence.
Oui.
Voilà. Et le mot de la fin sur la question de la convergence, évidemment, c'est de seule Europe. si vous avez suivi du coup la révélation de Topico, vous saurez à quoi on fait référence. On va passer au Pokémon suivant qui a été révélé. C'est Fari Giraffe, lui qui a été révélé dans le dernier trailer. C'est évidemment l'évolution de Girafarig, comme son nom l'indique. On a gardé le palindrome, on a un petit peu tout inversé. Et c'est donc le retour d'une évolution d'un ancien Pokémon, tout comme dans Légende Pokémon Arceus. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça me manquait depuis la quatrième génération, même si on a eu Nymphalie, mais bon, comme c'est une évolution, c'est un petit peu autre chose. Mais là, ça y est, ça revient dans la série canonique et je suis donc extrêmement heureux. On avait eu Ashikator et Ursa King dans Légende Pokémon d'ailleurs, avant de parler de Fari Giraffe. Comment tu avais accueilli justement Ashikator et Ursa King de ton côté?
Bah, j'étais un petit peu perdu en fait, parce que quand la 8ème génération est apparue, on nous avait annoncé que dorénavant, seules les formes régionales pouvaient avoir des évolutions nouvelles. Par exemple, je prends l'exemple de Miaouss de Galar, qui est devenu Berserk 4, et non pas Persian de Galar. Et d'après ce qu'ils nous avaient fait comprendre, c'était dorénavant la norme, qu'ils n'allaient plus retoucher aux anciens Pokémon, mais indirectement via des formes régionales. Et j'ai été surpris, en bien, dans Légende, quand j'ai vu pour Ashikator et Ursa King. Et donc, après, je pensais que c'était quelque chose de spécifique, en fait, à cette version. Par exemple, Ursa King et Ashikator évoluent grâce à des objets qu'on trouve uniquement en Hisui, et je me suis dit, bah, si ça se trouve, c'est des Pokémon qui ne pouvaient évoluer qu'avant. Maintenant, ces objets ont disparu, donc ils ont perdu leur méthode d'évolution, donc on ne les verra plus jamais, à part bon, avec des transferts, bien entendu. Et donc là, voilà, on a vraiment une version principale, une version 9ème génération, vraiment nouveau jeu, avec une évolution d'un ancien Pokémon. Je suis super content, et j'espère qu'on en aura plusieurs, parce qu'il y a un certain nombre de Pokémon qui auraient bien besoin d'un coup de pinceau.
Oh bah bien sûr, j'ai oublié d'ailleurs Cerfrousse et Paragruel, même si Paragruel c'est un petit peu à
oui.
part et que c'est pas le
oui,
même Serbilin, Paragruel
oui.
qui évolue. Oui, Serbilin. Donc, alors moi je l'avais pas pris aussi de manière aussi affirmative que toi cette évolution, ce qu'on appelait révolution et régionale du coup dans la 8ème génération. Pour moi c'était vraiment une spécificité en fait de Galar et que du coup dans cet épisode. Les évolutions seraient des évolutions régionales, mais comme souvent de façon avec Pokémon, ce qu'il y a dans un épisode n'est pas forcément reconduit du coup à l'épisode suivant. On est habitué des deux pas en avant et des quatre pas en arrière.
Tout
donc,
à fait.
Ça m'étonne pas trop qu'ils aient repris du coup ce principe et je suis même extrêmement content parce que moi, la quatrième génération, en tout cas le bestiaire de la quatrième, est vraiment l'un de mes préférés pour cette raison-ci, parce que j'aime bien cette idée de créer des liens justement avec les autres générations. Et c'est aussi un bon moyen d'ailleurs de relier la cinquième génération, qui a que des Pokémon en fait finalement totalement isolés par rapport aux autres, et ben de la relier finalement avec les autres générations. On a dressé une petite liste d'ailleurs d'anciens Pokémon qu'on aimerait bien revoir, enfin voir évoluer en tout cas. Bah, commence avec la tienne et explique un petit peu pourquoi tu aimerais que ces Pokémon évoluent.
Alors j'en ai donné 3 seulement, même si je pense que je pourrais en trouver plein d'autres, mais j'ai noté Eliatron, Simularbre et Insolurdo. Principalement des Pokémon de 2ème génération. J'aurais même pu noter Coxyclac, pourquoi pas Noirfang. Des Pokémon, l'inconvénient en fait des versions en réargent, c'est qu'on a une centaine de nouveaux Pokémon, mais malheureusement, les pauvres, la plupart, c'est des Pokémon très mal pensés, très mauvais, on s'en sert en début de partie, et après malheureusement on les jette, et il y a quand même de bons designs, de bonnes idées, et je pense notamment à Eliatron, un beau tournesol, pourrait faire un parfait Pokémon feu et plante, enfin plante et feu, double type qui n'existe pas encore, et avec des statistiques améliorer forcément pour qu'on puisse un petit peu jouer avec sans avoir de gros problèmes. Mais oui, je pense que les Pokémon de 2ème génération, ils en auraient vraiment bien besoin. C'est pas les seuls, évidemment, mais j'ai noté ces 3-là.
Bah, pour preuve d'ailleurs, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de Pokémon de deuxième génération qui sont concernés par ces nouvelles évolutions.
Tout à fait.
On a parlé d'Ursaking pour Ursaring, donc Serbilin pour Serfrous, et puis donc Farigirafe pour Girafarig. Alors juste avant de parler de Farigirafe, justement, moi je fais ma petite liste. Alors Lipoutou, parce que je trouve que c'est un petit peu injuste par rapport à Magmar et Electek, hein, voilà, oui. Qui normalement ils forment un petit trio tous les trois. Lipoutou a été mis de côté pour les raisons que vous savez certainement liées à la polémique qu'il y a eu autour de la couleur de Lipoutou qui a conduit à ce que le Pokémon devienne violet à une époque. Et moi je rêve toujours de mon évolution en Lady Glagla. Voilà, je dépose le nom.
Ah, c'est génial comme nom, j'ai jamais pensé.
Merci. Et de la même manière, Apiren, qui est un de mes Pokémon insectes préférés que j'adore de la quatrième, qui est un Pokémon très défensif avec son double type pourri, insecte vol, c'est un petit peu dommage.
Oui.
Mais ce serait bien justement de la renforcer un petit peu. Pourquoi pas, je sais pas, insecte fée par la suite ou j'en sais rien. Et de l'appeler Apiratrice. Voilà,
bien
là aussi je trouve
aussi,
que je suis...
Oui.
Inspiré le mec quand même.
Ah ouais, franchement tu devrais postuler, envoyer un petit CV, ça sera, je pense que tu devrais
gagner.
Mais
tu sais que, blague à part, Nintendo a déjà, enfin pas Nintendo mais Game Freak en tout cas, enfin la Pokémon Company a déjà expliqué qu'il ne lisait pas les courriers des fans pour éviter de s'en inspirer.
Oui.
Et pour éviter des procès de ceci, de cela, et donc du coup il ne regarde pas du tout les inspirations des autres, donc malheureusement ça n'aura jamais lieu. J'aimerais bien qu'on ressorte aussi des cartons Gorochu, qui était l'évolution prévue de Raichu, donc un Raichu un peu plus vénère, et on pourrait le créer en fait en forme d'évolution alternative.
Oui.
à Raichu, hein, pour garder la limite de 3 dans la famille.
Tout à fait.
Et puis Rubombelle, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup de la 7ème, mais qui est vraiment faiblard malheureusement, et qui est un petit peu le syndrome 2ème génération, j'ai envie de dire, Pokémon de début de jeu, et qui sert à rien clairement des mid-game. Et puis Deden, comme de nombreux cousins de Pikachu, j'aurais pu citer Molga, j'aurais pu citer Pachiritsu que j'aime énormément, mais Deden est probablement celui que j'aime le plus. Et qui n'évolue pas, malheureusement. Je trouve que c'est vraiment relou d'avoir que des cousins de Pikachu qui n'évoluent pas à chaque fois. Ça fait, ça fait trop le Pokémon gimmick dont qu'on va pas vraiment utiliser, même si Morpeko est assez rigolo. Mais pour moi, Deden est le plus emblématique de ce manque d'évolution. Puis il est tellement mignon qu'il mériterait sa petite évolution. Alors, on va revenir du coup à Farigirafe. Déjà en termes de design, donc on voit que la queue de Girafarig a disparu, ou plutôt elle a fusionné avec la tête, donc on a l'impression que la tête de la girafe maintenant est une espèce de capuche noire.
Oui.
Pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses du coup en termes de design?
Le design, honnêtement, j'aime plutôt bien. J'aime bien le principe un petit peu de double personnalité avec une qui a pris le dessus. Sachant qu'en plus, a priori, le Pokémon aura accès à une attaque dans laquelle la tête noire fermera sa bouche sur la tête de la girafe et mettra des grands coups avec le cou, vraiment des grands coups comme si c'était un énorme marteau. Je trouve ça assez sympa. Le Pokémon ressemble encore plus à une girafe, je serais tenté de dire. Une girafe à capuche, mais une girafe quand même. Et oui, moi je dis pourquoi pas. Ils ont une bonne idée, ça me plaît bien, c'est créatif. Donc à voir après.
Alors, il garde son type normal psy. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs dans les versions bêta du coup de Pokémon Or et Argent qui avaient fuité, il y avait la pré-évolution de Girafarig qui n'est jamais sortie et qui était sous forme de deux petits spectres, de petits fantômes du coup de type spectre. Est-ce que tu te souviens de cette créature? Est-ce que tu aurais bien aimé qu'ils en profitent pour ressortir un petit peu cette pré-évo?
Oui, peut-être en la retouchant, parce que c'est vrai que les deux petites boules noires qui deviennent girafes, oui, c'est particulier. mais faut dire aussi qu'à l'époque, si je me souviens bien, Girafarig, il y avait aussi, c'était pas une boule noire l'autre tête, c'était une tête de girafe noire. Vraiment, c'était
oui.
Avant-arrière. Et mais ouais, ça aurait peut-être plus correspondu dans ce cas-là. Mais bon, forcément, on n'aurait pas eu le Girafarig et le Farigirafe d'aujourd'hui. Donc oui, ils auraient pu refaire un petit truc comme ça. Pourquoi pas? Mais je sais pas s'ils prévoient de remettre des bébés.
Mais quel est ton avis d'ailleurs, justement, sur les bébés? Est-ce que t'aimerais bien qu'ils en remettent?
Bah, je crois qu'on avait parlé à la première émission. Pour moi, les bébés, on va dire, du moment que ça fait plaisir à des joueurs, à des joueuses, bah, ça me fait plaisir aussi. Voilà, à toi notamment. Mais personnellement, bon, c'est un petit peu du remplissage de Pokédex qu'on peut pas vraiment jouer parce que, bah, des bébés, c'est faiblard et ça évolue après. Mais bon, après, ça peut, je pense, dans une optique très, très mercantile, pour le merchandising, tout ça, ça marche bien, les petits bébés Pokémon. Donc, voilà, il pourrait.
Alors, avec tes yeux d'expert, tu nous l'as signalé sur ta chaîne YouTube, tu as remarqué que dans le dernier trailer, il y avait un nouveau Pokémon qui n'est pas nommé, mais qui est apparu quand même. C'est un petit pot d'échappement qui ressemble énormément du coup au moteur qui lui-même n'a pas été déclaré non plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit pot d'échappement? Est-ce que tu penses du coup que c'est la forme préévoluée du gros moteur dont on avait déjà parlé dans l'épisode précédent?
Bah, oui, je pense que ce serait ça, parce qu'on voit bah, le gros moteur, il a un œil jaune, il a deux gros, bah, oui, c'est des sortes de peaux, mais vraiment il est assez bastoc à l'avant du véhicule donc de la chef de la Team Star, la chef feu de la Team Star. Et quand on voit le véhicule avancer, on voit que sur un côté, j'imagine qu'il y en a peut-être un de l'autre, je sais pas, et bah, on voit à peu près la même chose, un œil jaune, mais vraiment plus petit, avec juste un seul échappement, et je me dis qu'en fait, ce véhicule, finalement, ce serait pas un Pokémon, mais il serait mis en marche par plusieurs Pokémon, donc un gros Pokémon devant qui ferait office de moteur, et les deux autres, plus petits, on va dire de propulsion, d'échappement, et ben j'ai hâte de voir ça, parce que je trouve ça marrant, en fait. Je sais que les Pokémon objets n'ont pas vraiment le plus de cotes, on va pas se mentir, mais je sais pas, moi ça m'amuse, donc j'ai hâte de voir.
Du coup, on partirait plus sur une évolution à la Terral Metang, par exemple. Hein, on voit que Metang est constitué de Terral, etc. Puis Metalos, on en rajoute encore. Plutôt qu'une possession, entre guillemets, à la Motisma, selon toi.
Oui, je pense que ça ressemblerait plus à ça, oui, et que ces Pokémon aient, on va dire, la capacité d'utiliser, on va dire, des mécanismes de véhicules pour les faire avancer. Mais voilà, que ce soit pas une possession.
Est-ce qu'ils vont nous révéler ce Pokémon avant la sortie du jeu, ou est-ce que ça va être un petit peu la surprise quand on va lancer Écarlate et Violet? On verra bien d'ici là, il reste un mois avant de découvrir tout ça. Un dernier Pokémon a été révélé en fin de semaine dernière, c'est Ampibidou. C'est une espèce de grosse grenouille ronde, verte, avec un gros bidou comme son nom l'indique, et qui peut se charger d'électricité. J'aime beaucoup d'ailleurs elle est type électrique pure. J'aime beaucoup le nom d'ailleurs français, Ampibidou, donc amphibien, ampère, bidou. Je trouve que c'est plutôt bien construit. Autant je le trouvais très très moche au début, parce qu'il a des espèces de deux grosses bosses blanches qu'on prend pour ses yeux, en fait, au premier abord. Ça ressemble vraiment à des yeux, en fait, au final. Mais on remarque, en fait, que ses vrais yeux, ce sont deux petites taches jaunes au-dessus de sa bouche que je prenais pour ses narines. Et quand j'ai vu ça, je l'ai trouvé tout de suite plus mignon. Parce que c'est vrai qu'il a, comment dire, il a pas un physique facile, on peut dire. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté?
Non, c'est typiquement le genre de Pokémon. Objectivement, on peut pas dire qu'il est magnifique. Mais c'est vraiment le genre de truc qui a un look suffisamment ridicule pour que je l'adore. Parce que le truc, il rebondit, il s'écrase, il remonte, enfin, il fait n'importe quoi. Il est tout pâteau, je sais pas, j'aime beaucoup le principe, vraiment. Il me plaît bien. Comme toi, ce qui me gêne le plus, c'est ces deux boules sur la tête. Apparemment, c'est volontaire, ça ressemble à des yeux pour faire peur à ses prédateurs, mais ce ne sont pas ses yeux. Et c'est vrai que limite, s'il n'y avait pas eu les fausses pupilles là-dedans, j'aurais préféré, ça aurait donné un petit look de la denrée dans la soupe aux choux. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Je vois, c'est une comparaison audacieuse, mais pourquoi pas.
et voilà, j'aurais peut-être préféré comme ça, mais je l'aime bien aussi. Donc ouais, je pense que c'est un Pokémon que je vais ajouter à mon équipe avec plaisir.
Alors, c'est le Pokémon du coup d'une championne qui s'appelle Machine, qui a été révélée, dont on parlera en fin d'émission. On avait fait des paris, hein, Mali et moi, parce que en fait Machine a essayé de nous faire deviner quel était son Pokémon. Évidemment, c'était un Pokémon qu'on ne connaissait pas. Enfin, il y avait de grandes chances sur un Pokémon qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on partait sur des paris. Moi, je voyais bien une évolution de Pomme. Du coup, bon, c'était pas le cas. Et toi, Mali, si je me souviens bien, tu imaginais une forme régionale potentiellement.
Oui, avec la description, je voyais un peu une sorte de forme régionale de crapustule, avec les grosses bosses sur la tête qui ne sont pas ses yeux. Bon, je suis pas trop loin, on est un petit peu dans l'univers, donc voilà, ça m'aurait bien plu aussi, tu me diras.
On a gardé le crapaud. Il est assez gros, du coup, ça pourrait indiquer que potentiellement, il pourrait avoir une pré-évolution. Est-ce que tu le vois avec une Prévost, avec une Evo de ton côté?
Prévost, c'est possible, oui. Evolution, peut-être un petit peu moins, parce que vraiment, elle nous présente ça comme son super ami, super Pokémon, et généralement, quand on met quand ils mettent le focus sur un Pokémon comme ça, ça va être la forme principale. Donc, je pense bien une Prévost, voire pas en forme unique, mais je sais pas, une petite Prévost, ça me m'étonnerait pas.
Une mignonne petite grenouillette. Oui, il y a de grandes chances qu'il n'évolue pas, parce que c'est quand même le Pokémon d'une championne de toute façon. Donc si elle faisait en plus des combats avec un Pokémon non évolué. En revanche, sa forme et sa consistance me fait dire que ce sera un sac à PV. Hein. Vous le savez, chez Pokémon, dès qu'un Pokémon est un petit peu dodu, il y a de grandes chances qu'il ait plein de points de vie. Et moi, j'aime bien ça.
Et pour le coup, je me demande même si ce ne sera pas une baudruche, c'est-à-dire beaucoup de points de vie et des défenses très faibles, comme on peut avoir sur Gros Doudou ou Gros Drive. Et ça, c'est des Pokémon qui ne sont pas forcément faciles à jouer. Parce que certes, ils ont beaucoup de points de vie, mais ils se défendent pas très bien, donc le mélange est un peu curieux.
Réponse rapidement, du coup, dans Pokémon. Alors, ce ne sont pas les seuls Pokémon, en fait, qu'on a découvert, parce que malheureusement pour Nintendo, une fois n'est pas coutume, ils se sont autoliqués. Enfin, je dis Nintendo encore, c'est la Pokémon Company. Il y a, en fait, dans le trailer occidental, je ne sais plus lequel c'était le trailer anglais ou un trailer européen, il y avait des créatures qui apparaissaient, en fait, sur la minimap, en bas à droite. Mm-hmm. Et on a pu, du coup, voir 3 créatures sur la minimap, et tu as bien fait d'ajouter en direct dans le conducteur, je viens de le
J'ai
voir.
J'ai pensé à quelque
Merci,
chose, oui.
Mali. Tu as bien fait effectivement un quatrième Pokémon que lui on voyait carrément à l'image. Là c'était un peu plus voulu parce qu'on le voyait dans tous les trailers, mais en tout cas ce sur la minimap c'était clairement pas voulu et ça n'apparaissait pas dans la version japonaise. On va commencer par 2 petites souris blanches qui se ressemblent beaucoup. On dirait des espèces de posipiers avec des oreilles rondes mais totalement blancs un petit peu. Avec 2 designs différents, légèrement différents, où ça ressemble aussi un petit peu d'ailleurs à un Chinchidou, ça sent clairement le Pokémon de type normal. Je sais pas ce que t'en penses de ton côté.
Oui, ça ressemble au Pokémon de type normal, un petit peu qu'on trouvera, je pense, n'importe où dans la région. Alors est-ce que ce sera finalement lui, le petit rongeur dont on parlait, là où je m'étais dit que ça allait peut-être être Tag-Tag, ça, on verra. Mais ce qui est étonnant, c'est que je sais pas en fait si ce sont 2 Pokémon différents, par exemple avec des différenciations mâle-femelle comme on a quelques-uns, ou alors si c'est vraiment un duo comme on a, on parlait de Trio Picker tout à l'heure, ou alors on a eu Hexadron en 8ème génération qui sont composés de 6 petites boules avec des pattes, je crois, il me semble, ouais, c'est des sortes de boules avec des bouclés. Et est-ce que par exemple, ce serait pas un duo de Pokémon qui sont dans la même Pokéball, qui tombent KO ensemble, qui se battent, je sais pas, mais ça pourrait être une bonne idée.
Oh, un petit couple de souris à la vie, ce serait rigolo. Après, si c'est ce type de Pokémon, je les vois mal évoluer, en tout cas, souvent des Pokémon gimmick comme ça, ça reste un petit peu dans son coin, alors que si c'est un Pokémon unique, mais s'il y en avait 2 du coup sur l'image... Je vois bien une évolution. Ça pourrait être aussi un truc à la Mystigrix, du coup, comme tu disais, effectivement, chacun avec son style de combat, ou Ymessir aussi, une différence mâle-femelle.
Oui.
Du coup, avec une façon de jouer, un moveset qui pourrait différer. Ça pourrait être intéressant, mais ça sent clairement le Pokémon de type normal. Là, je mets quasiment ma main à couper pour ça. On a aussi repéré un perroquet vert et j'ai l'impression, alors je n'ai pas une très bonne vue, je suis myope, mais toi aussi tu portes des lunettes, mais peut-être que tu l'as mieux vu que moi, j'ai l'impression qu'il a un chapeau haute forme, je ne sais pas si tu l'as vu sur l'image, à quel point tu as détaillé la minimap, mais de mon côté j'avais l'impression de voir avec un petit chapeau, je ne sais pas toi ce que tu as repéré.
Je ne pourrais pas te dire avec assistance, assurance, si tu as raison, si tu as tort, mais oui c'est vrai que vu que c'était une petite zone de l'écran qu'on a dû agrandir, à cet endroit-là il y a peut-être quelque chose... pour le coup, le haut de forme, ce serait très très drôle, ce serait très très sympa, mais voilà, désolé, là je peux pas aller ni dans ton sens ni dans l'autre, je vais rester neutre.
Un perroquet vert, donc un deuxième Pijako en fait, en quelque sorte, qui a l'air beaucoup plus classique, mais il sent aussi le normal vol, je sais pas toi comment tu le sens.
Excellente question en fait, parce que oui, vert ça veut pas forcément dire qu'il sera type plante, mais oui, ça, on va dire vraisemblablement, ou vol tout court. J'en ai aucune idée, mais il a un petit look, je trouve, un peu de perroquet à la Disney. Je sais pas, j'aime bien sa petite trône comme ça. J'attends d'en savoir plus. Est-ce que, puisqu'on ne l'a pas vu, est-ce que ce serait la série justement d'oiseaux en trois niveaux de cette génération? Puisque là, visiblement, cette capture d'écran-là, c'est au moment où le personnage rentre dans l'arène plante, qui a priori serait une des premières arènes. Donc, peut-être que les Pokémon qu'on rencontre à ce moment-là sont des Pokémon classiques de début de jeu. Et est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait une famille justement de d'oiseaux en trois niveaux, hein, l'équivalent des Roucarnages, Étoraptor et compagnie, qui seraient des perroquets? Bah ça, je sais pas, j'ai hâte de voir.
Ce qui serait cohérent avec ton pari sur la souris blanche comme étant aussi le petit rongeur de début de génération, ça collerait du coup.
Hein, ça pourrait, oui.
Notre Ratata et notre Roucoule l'un à côté de l'autre, et le Racaillou juste à côté, j'ai envie de dire, puisque le troisième Pokémon qui apparaît à ce moment-là, et là c'est mon gros coup de cœur, c'est, alors clairement, le Champiroche existe déjà hein, dans Super Mario, mais s'il y avait un autre Champiroche, il ressemblerait à ça. On dirait vraiment un petit champignon Mario avec ses yeux comme ça, et puis un rocher sur la tête, et une espèce de bloc aussi qui lui sort du coup de la tête, un peu une forme de cristal, de roche, je sais pas trop, mais qui est assez génial, je trouve, en termes de design, et qui clairement là sent le Pokémon roche assez sympa, peut-être plante roche aussi pour le côté champignon pour le coup, parce que les champignons effectivement dans Pokémon sont de type plante, mais lui clairement c'est mon petit chouchou. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi je le veux dans mon équipe, et j'espère qu'il évolue parce que j'ai hâte de voir à quoi il peut ressembler par la suite.
Eh bien, en fait, ce Pokémon, j'ai un petit peu buggé. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un Pokémon ou est-ce que c'est un bâtiment spécifique qu'on trouve sur la carte? Parce que vraiment, j'ai l'impression de voir une maison de Toad, comme t'as dans les Mario 3D. Mais vraiment, le Toad de la montagne qui habite dans la roche, tout ça, avec la petite cheminée au-dessus. Et je me suis vraiment demandé ce que c'était. Donc, je suis vraiment curieux. Je pense que c'est un Pokémon, puisque bon, il a à peu près la même résolution que tous les autres. Enfin, voilà. Mais oui, c'était un gros point d'interrogation pour moi, et oui, je serais curieux de voir à quoi il ressemblera en grandissant.
Pour le coup, on parlait justement du design des Pokémon, de est-ce que ça fait Pokémon, est-ce que ça fait pas trop Pokémon. Lui, je trouve qu'il tranche vraiment radicalement avec l'esthétique classique, tout en s'intégrant parfaitement au reste, en fait. J'aime bien cette idée, voilà, de faire un truc assez nouveau. Mais qui s'intègre bien, je trouve, malgré tout. Tu vois, j'ai moins de mal avec ce genre d'essais, entre guillemets, d'essais graphiques, qu'avec Malvalam et Karmadura, même si je me suis habitué maintenant, disons qu'ils m'ont un peu plus étonné et sorti un petit peu du concept que lui, tout de suite, je me suis dit, waouh, ça c'est original, mais ça marche bien avec l'esthétique.
Oui, je suis d'accord avec toi, oui, c'est... J'ai hâte de le voir un petit, de sauter, faire des petits bonds pour attaquer ou pour avancer sur la carte. Ça va être tout mignon.
Oui, surtout que petite parenthèse, durant le teaser d'annonce de Topico, il y avait des explications aussi sur la façon dont les Pokémon vont se comporter sur la carte, et ils ont retenu un petit peu les leçons qu'il y a eu dans Épée et Bouclier et dans Légende Pokémon Arceus. Et un des points que je critiquais le plus, c'était que les Pokémon en fait manquaient un petit peu de vie, par exemple par rapport à New Pokémon Snap. Alors c'est difficilement comparable évidemment en termes de capacité, puisque New Pokémon Snap joue sur des rails, etc., on en a déjà parlé, mais là pour le coup apparemment les Pokémon auront des comportements un petit peu différents selon leur nature, selon le type de Pokémon. Certains seront plutôt grégaires, d'autres plutôt solitaires. Ce seront pas des Pokémon qui errent et qui attendent en fait qu'on soit là pour pouvoir interagir entre guillemets avec l'environnement. Donc il y aura a priori une conscience écologique un peu plus développée dans Écarlate et Violet, et ça j'ai vraiment hâte, parce que peut-être qu'on pourra ressentir pour la première fois cette véritable impression de safari, en plus le tout dans un monde ouvert. Je pense que ce serait vraiment une grande amélioration par rapport à Légende Pokémon. Je ferme cette petite parenthèse pour parler du dernier Pokémon repéré du coup dans le trailer, et puisqu'on parlait de Karmadura et de Malvalam, on a vu ce qui ressemble très probablement à une pré-évolution au moins de Karmadura, mais a priori moi je pense que les deux Pokémon sont reliés par la même évolution, et c'est l'objet différent qui va permettre en fait d'évoluer en l'un ou en l'autre. Selon les descriptions qu'on a sur le site officiel, on a plutôt l'impression que c'est ça. Est-ce que c'est une analyse que tu partages de ton côté? Ce petit chevalier va-t-il évoluer en Karmadura ou Malvalam?
Bah, je pense que tu as vraiment tout dit. J'ai exactement cette idée-là. Le petit chevalier rouge qu'on voit de loin dans le trailer. Je sais pas s'il a été caché dans le trailer japonais, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, oui, on le voit dans la base de la Team Star, l'équipe feu. Et voilà, c'est un Pokémon qu'on affrontera. Et je pense, comme tu le dis, que ce sera ce Pokémon qui évoluera selon l'objet qu'on lui donnera. Et vu que, a priori, Karmadura et Malvalam sont spécifiques aux versions, et eh bien que les objets en question ne se trouveront que dans une version ou dans l'autre.
À la verre pomme, quoi. Qu'est-ce que tu penses justement de ces évolutions en embranchement?
J'aime bien et j'aimerais en voir plus. On en a eu quelques-uns bah, pour certaines. Il y a très longtemps, pour certains Pokémon, on a eu eh bien, Ortide, Joli, enfin, Rafflesia, Jolifleur, on a eu
Tarpeau Tartare.
Tarpeau Tartare. Tout récemment, bah, pour le coup, maintenant, on a un Secateur, Cizaïox ou Ashekateur. Et c'est vrai que ça permet de repenser différemment certaines familles de Pokémon, en leur apportant un petit peu de nouveautés, qui parfois se répercutent même sur les formes qui existent déjà, notamment via les reproductions, les capacités auxquelles ils ont accès. Et j'aimerais bien en voir plus, oui,
Je
complètement.
trouve que c'est un concept qui est largement sous-exploité.
Oui.
Et puisqu'on parle de Tartare, je vais reparler un petit peu des versions bêta d'or et argent. Il y a Ed Layton sur Twitter qui avait sorti justement la version bêta de Tartare qui ressemble un petit peu. De Tarpeau, pardon, excusez-moi. De Tarpeau, donc la version crapaud. Crapaud grenouille, qui ressemble étrangement un petit peu à Ampibidou, légèrement. Il y a un petit, c'est vrai que ça fait un petit peu penser à Ampibidou. Et il devait y avoir aussi une alternative à Ampiflore qui devait exister
Oui.
avec la pierre soleil, qui ressemblait à un Chétiflore, mais un peu plus arbre finalement. Et ça, je regrette qu'il soit jamais sorti.
Oui.
J'espère qu'un jour ils vont le ressortir. C'est con parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excellents Pokémon dans les tiroirs liés
Oui.
aux anciens jeux et je pense à Gorochu, mais je pense aussi à attends, j'ai dit Gorochu, mais Gorochu c'est pas l'évolution de Raichu. En fait, Gorochu c'est pas le tigre,
En
je me
fait,
trompe.
à la base, c'était prévu pour être l'évolution de Raichu, mais il y a aussi eu la famille Kotora qui était des
Ah, c'est
tigres,
ouais, voilà, c'est ça,
voilà,
c'est ouais.
en
Ok,
trois niveaux.
j'avais peur de mettre planté dans les noms, parce qu'effectivement là je pense à Kotora qui est le tigre électrique, mais absolument mignon, mais il
Oui,
était incroyable
trop
ce
choupi aussi,
design.
ouais.
Oh, il est fou, mais quel énorme dommage de ne pas avoir ressorti ces designs. Enfin voilà, peut-être qu'un jour ils ressortiront des placards, ce serait rigolo, mais il y a vraiment de très très belles idées en fait là-dedans. Et bah, en tout cas, si vous connaissez pas le sujet, faites des petites recherches, c'est très bien documenté actuellement. Bah, justement, je parlais de Dead Layton, il a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Est-ce que tu en as fait toi sur le sujet, sur ta chaîne aussi d'ailleurs?
C'est pas trop mon domaine, sachant que bah, en plus bah, Ed Layton fait des excellentes vidéos. Il en a fait une tout récemment sur bah, juste encore une fournée qui date
Sur
de
la 2G.
l'époque or et argent, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que mine de rien, Game Freak se resserre d'anciens designs, les ressorts du carton, parfois pas mal modifiés, mais on a pu voir qu'à cette époque-là, il y avait déjà un petit koala attaché à un arbre, et puis il a apparu que bien après sur Alola. Donc c'est vrai que voir un jour la petite famille Kotora, ça ne relève pas totalement du mythe, et j'espère vivre ça.
Ah là là, moi aussi, très clairement. Alors, est-ce que tu espères vivre aussi le pique-nique à Paldea, qui est une nouvelle
Ah!
fonctionnalité qui vient d'être révélée? Bon, on va dire, c'est l'équivalent du camping qu'on avait en 8e génération, très clairement.
Oui, alors peut-être avec une possibilité peut-être un peu plus ludique, parce qu'on peut composer soi-même son sandwich en positionnant les différents ingrédients.
Est-ce que
Ouais.
c'est vraiment ludique? J'ai envie
Bah,
de dire.
pour moi non, mais j'ai une petite fille qui a presque 6 ans, et quand je lui ai montré le trailer, elle a dit, oh, mais c'est trop bien, je vais faire des sandwichs et manger avec mes Pokémon. Donc je pense qu'on n'est pas
On n'est
le
pas le
cœur de
public.
cible, voilà. A priori, on aura peut-être besoin quand même de s'en servir parce que les bonus conférés, c'est assez unique. Par exemple, selon certains types de sandwich mangés par l'équipe, ça permettra de rencontrer plus de Pokémon d'un certain type donné. Ça permettra d'augmenter l'expérience gagnée. Ça permettra plusieurs petites choses comme ça qui pourraient nous aider dans l'aventure. Donc voilà, même
Waouh.
si les sandwichs en question, bah, ils sont pas très jolis, quoi, pas se mentir. Il y avait eu la comparaison avec le sandwich du Dr. Eggman dans Sonic Unleashed, je crois, qui était bien mieux modélisé. Et c'est vrai que là, il est tout flou, le pauvre sandwich, et il donne pas envie, quoi. On m'en donne un comme ça, je dis ouf, il est un peu fatigué, quoi.
Voilà, une liste qui a plus de 10 ans quand même, ça fait un petit peu mal. Mais les sandwichs, il y avait déjà un petit peu ça avec l'écurie quand même, de toute façon.
Après c'est vrai que l'écurie, disons on avait juste une photo à la fin, là on a l'objet modélisé en 3D, bon est-ce que c'est mieux, ça je ne sais pas.
Ouais,
bon.
Est-ce que ça valait le coup de modéliser, en plus j'ai été vraiment estomaqué par le soin porté à la physique lors de la création du sandwich, avec la façon de... Je me dis mais est-ce que vraiment au regard peut-être des points plus importants dans le jeu, est-ce qu'il fallait dépenser autant d'énergie sur la physique du sandwich?
Pour que le jambon il tombe si t'en mets de trop ou si tu le places mal. Oui non, c'est un petit peu la gestion des priorités chez Game Freak. J'ai parfois du mal à comprendre. Comme le curry, ils avaient passé beaucoup de temps pour quelque chose de finalement un détail que très peu de personnes utilisent régulièrement. Perso, le curry, j'en ai fait un seul, et c'était pour en montrer dans une vidéo. Sinon, ça m'a pas intéressé du tout. Et voilà, les sandwichs, si les bonus de rencontre, c'est vraiment des pourcentages ridicules ou les gains d'expérience sont très bas, je m'en servirai pas non plus. Je vais pas... Non, c'est pas mon truc.
Ah, mais tout ça, mais comme les câlins au Pokémon, tout ça, c'est mignon, 5 minutes. À la rigueur, c'était vraiment mignon sur DS et 3DS parce que tu avais le côté, le tactile en fait, et du coup, c'était rigolo. D'ailleurs, je dis DS, mais je crois qu'il n'y avait pas encore tout ça. Non, parce que ça paraît que la 6ème génération.
3DS, oui.
Donc 3DS directement. C'était rigolo parce que tu avais le tactile, mais je trouve que maintenant, c'est vrai que j'ai vieilli entre temps, peut-être que j'ai perdu mon âme de câlineur. De Pokémon, hélas. Y a une autre chose qui a été montrée, en tout cas, c'est qu'on obtiendrait les œufs de cette manière. Alors moi, ça me fait peur parce que je me dis, si tu fais un camping, enfin pas un camping, hein, du coup un pique-nique avec 6 Pokémon, qu'est-ce qui se passe au niveau des œufs? Enfin, ils te sélectionnent 2 Pokémon au hasard et les deux te font un œuf et tu peux plus choisir qui est le papa, qui est la maman, et du coup c'est le bordel, tu te retrouves avec des œufs de n'importe quoi dans tous les sens. Enfin, j'ai peur un petit peu de la... j'ai l'impression qu'ils ont voulu simplifier le système de pension, qui est pourtant pas extrêmement compliqué, mais extrêmement pratique, avec la pierre stase, des ceci, des cela, pour conserver les talents, pour transmettre les techniques du mâle à la femelle. Enfin bref, il y avait plein de façons très intéressantes de faire des œufs. Mais là, j'ai peur de ce que ça peut donner, en fait, finalement.
En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu inspirés de la concurrence, et notamment de Temtem, mais j'ai l'impression qu'ils ont, tiré le pire, en fait, du système plutôt que le meilleur.
Parce qu'il
faut savoir que dans Temtem, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais une reproduction, c'est tu peux voir la tête qu'auront les statistiques de l'œuf. En fait, vraiment, d'un point de vue indication visuelle, c'est très très bien fait. Selon les objets que tu mets, ils te disent cet œuf aura ses IV, enfin c'est pas des IV dans le jeu, mais c'est équivalent d'IV, et c'est très, vraiment, même si on s'y connaît pas trop, on voit clairement ce qui se passe. Alors, dans ce jeu, il y a un système de fertilité qui est horrible, parce qu'un Temtem peut se reproduire un certain nombre de fois, et après, terminer, ce qui fait que faut tout le temps recommencer du début, quasiment, parce que ça c'est pénible. Mais il y a un autre truc aussi, et ça me fait peur, je me dis qu'on verra peut-être ça dans Pokémon, c'est que dans Temtem, les œufs, l'éclosion, enfin, la procréation et l'éclosion, c'est une question de temps, en fait, de temps IRL. Et certains peuvent monter, j'en ai déjà eu à 25 ou une demi-heure, je crois, pour un œuf. Donc, c'est un petit peu long. Alors, oui, tu lances ça avant de te coucher, tu le récupères le lendemain, mais ce que j'aimais bien dans Pokémon, c'est essayer d'avoir un chromatique avec des œufs, hop, j'en mets plein mon sac, et je fais des allers-retours, et voilà, ça va vite. Et j'ai peur que si jamais ils se dirigent vers quelque chose comme ça, en plus, comme tu dis, avec un petit problème de qui se met avec qui, comment ça se passe, j'ai peur que l'élevage Pokémon en prenne encore un coup. Et là où je pense leur volonté est de rendre la chose peut-être plus intéressante pour que les gens soient moins tentés de générer leur Pokémon, je sais pas. Surtout si on est obligé de lancer des campings et qu'il faut attendre et qu'on s'ennuie, quoi, avec nos sandwichs. J'ai un doute.
J'espère qu'il y aura quand même encore quelque part une pension qu'on puisse... une garderie maintenant, parce que la pension, c'était pour faire monter le niveau. Maintenant, on appelle ça la garderie. Pour pouvoir encore faire le système à l'ancienne. Parce que si c'est trop aléatoire... En même temps, vu comment ils essaient plutôt de rendre accessibles les concepts tels que les EV, tout ça, etc., depuis plusieurs générations, Même le réapprentissage d'anciennes attaques, c'est de plus en plus accessible pour les joueurs et de plus en plus personnalisable. Je les vois mal quand même remettre en cause tout le système d'œufs, finalement, qui est quand même à la base de beaucoup de choses en stratégie. Sinon, ça va vraiment. Je sens qu'il y a des experts qui vont s'arracher des cheveux. Alors, en parlant de cheveux et de style improbable, et de s'arracher les cheveux d'ailleurs, on va parler de Machine, donc la troisième championne d'arène de Paldea qui a été révélée. La championne de type électrique qui se bat donc à l'arène de Levalendura, qui est donc une streameuse et qui nous a fait un petit vlog du coup pour nous présenter son Ampi Bidou et essayer de nous faire deviner qui est Ampi Bidou, avec un style très 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 japonais, très
oui,
très kawaii, et déjà il faut qu'on évacue. Qu'est-ce que t'en penses de Machine déjà tout de suite?
En fait, c'est un petit peu tout ce que, je vais pas dire j'exècre, c'est peut-être un peu grand, mais on va dire dans la culture pop japonaise, le kawaii c'est vraiment pas mon truc. Et là, bah, de l'avoir avec son look, ses jambes dépareillées et surtout son énorme manteau avec ses... on a l'impression que c'est ma fille qui a pris mon manteau, quoi. Ses mains qui sont à l'intérieur, comment on prend des objets avec ça, je trouve ça improbable. Et puis en plus, elle arrête pas de sauter de partout, de parler avec une voix queenarde, c'est pas pour moi. J'ai l'impression d'être un vieil ancêtre là-dessus, mais je déteste.
Disons qu'il y a kawaii et kawaii. Si elle s'était approchée avec un petit look à la Hello Kitty, tout ça, ça serait super cute, ça aurait pu être mignon. Mais là, effectivement, le manteau, mais c'est juste pas possible. J'ai envie de... Je crois que je vais essayer de trouver son arène en premier pour m'en débarrasser tout de suite quand je vais faire le jeu, parce que clairement, elle est littéralement insupportable. Oui. Vraiment. Donc, heureusement, évidemment, donc elle ne parlera pas dans le jeu. Donc, c'est l'avantage. Mais voilà, Machine, alors évidemment vous avez bien compris le jeu de mots avec machine, donc le côté mécanique finalement, qui correspond un petit peu au type électrique, mais c'est aussi un jeu de mots sur machine, le mot qu'on oublie, puisque en anglais son nom est Yono, si je me souviens bien.
Oui.
Qui est donc, je sais plus trop, enfin voilà, je,
c'est une version un petit peu, ouais, c'est ça, c'est une version un petit peu réduite de ça, ouais.
Et qui en même temps reprend Yon. Donc là, on retrouve le côté électrique. Donc oui, c'est quand même assez bien trouvé. Et donc son émission, si vous voulez vous renseigner, donc ça s'appelle Les Machins de Machine. C'est formidable, voilà tout ça. Bon, bref, elle, clairement, je la déteste. On a découvert Grusha également, champion du type glace, et Colza, champion du type plante, à Paldea. Est-ce qu'il y en a un des trois que tu aimes bien, que tu préfères, qui t'intrigue?
Pas vraiment, j'aime pas trop le champion plante, je sais pas, j'aimais bien quand les champions plantes étaient plutôt, c'était plutôt le printemps, c'était plutôt souriant, tout ça, mais je sais pas, lui sa tête me revient pas, Machine j'aime pas trop, et Grusha, pourquoi pas, mais on voit pas sa bouche, j'ai l'impression que c'est un personnage qui parle pas, qui a pas de personnalité, donc c'est assez curieux, donc on va dire que pour l'instant les trois exemples ne me convainquent pas totalement, donc j'espère avoir... un champion ou une championne que j'apprécie un peu plus que les autres, mais c'est vrai que pour l'instant, je reste sur ma faim.
Ah, pour l'instant, moi, j'aime bien Grusha, justement, avec ce style, la bouche cachée un petit peu. Je me dis, est-ce qu'il va se révéler c'est ce que sous-entend d'ailleurs le site officiel dans sa description, hein, comme quoi, quand il est passionné par un combat, tout de suite, il sort un petit peu de sa réserve naturelle. C'est un personnage plutôt timide, mais un petit peu androgyne aussi. Il y a eu des petites polémiques à cause de ça sur Twitter, parce que Twitter aime bien polémiquer pour tout, pour rien. J'aime bien son style. Je trouve vraiment pas mal le petit Grusha. Donc, j'ai hâte de voir, et surtout c'est que c'est assez inattendu de le voir se battre avec un bal balèze quand même, tu te dis waouh.
Oui, aussi.
Il y a un petit décalage en fait entre l'aspect et l'équipe, donc j'ai hâte de voir ça. Si on en profitait pour parler un petit peu de nos champions d'arène préférés, du coup, si on se plonge un petit peu dans le passé de Pokémon, quel rapport tu entretiens, toi, mon cher Mali, avec les champions d'arène en général dans Pokémon?
Eh bien, en général, j'ai aucun rapport, puisque je ne m'en souviens pas. Pour moi, c'est des personnages, la plupart du temps, quelconques, et qui n'ont quasiment pas d'intérêt, pas d'impact dans le jeu. Sauf peut-être, comme je l'ai noté, les champions de noir et blanc, puisque la première version noir et blanc, donc les premiers, les champions, à la fin, nous aident à vaincre les boss de la team Plasma. Voilà, ils ont un rôle, on les retrouve un peu plus, et voilà, je trouve... je trouve qu'ils sont pas vraiment cantonnés à leur arène et qu'ils sont bougés. Et ça me plaît un peu plus. Mais oui, en règle générale, je m'en souviens plus. Par exemple, là, j'ai beaucoup joué à Épée et Bouclier. Je les ai fait 4 ou 5 fois, dont une très récemment. Et je sais même pas si je peux te donner tous les noms des champions. Donc voilà, ça me passe dessus.
Ah, les noms peut-être pas, mais au moins ce à quoi ils ressemblent. Mais oui. Alors, c'est marrant que tu dis ça quand on est à leur arène, parce qu'en fait, depuis surtout la 4e génération, j'essaie de me souvenir dans la 3e, c'était un petit peu le cas. Mais là, tout de suite, ça me revient pas forcément. Mais dès la 4e génération, on croise quand même pas mal de champions en dehors de leur arène. Il y a des petits événements qui sont liés à ça. Comme je pense par exemple à Chimera, qui est une de mes championnes préférées de la 4e génération, qu'il faut qu'on cherche un petit peu, tout ça. C'est un petit peu la star qui parle en franglais dans la version française, parce qu'à l'origine, elle parle en français. Elle est d'origine française, du coup, enfin, en tout cas, francophone. Et francophile dans les versions originales. Et puis on croise quand même pas mal de personnages en dehors, y compris dans la sixième, il y a pas mal de champions qui nous aident. Dans la cinquième aussi, d'ailleurs, c'est le cas. Bardane, on le croise en dehors, il me semble. Aloé, la première championne aussi. C'est des choses qui te marquent pas trop. T'aimerais qu'il soit plus présent, en fait, finalement, dans l'aventure, ou ça te convient comme c'est actuellement?
Bah, en fait, comme tu le dis, on les voit, mais généralement, c'est autour de leur arène. Ils sont en train de faire quelque chose, on en apprend un petit peu sur eux, hop, ils reviennent dans l'arène, on les bat, et puis terminé. Mais ce que j'avais bien aimé en 5e génération, c'est qu'ils ont un rôle un peu plus... limite un peu de protecteur de la région, enfin, quelque chose comme ça. Et... ça me plairait que ce soit plus que ça, que par exemple, un jour, je sais pas, le grand méchant, le grand chef des... Bah, ce soit un champion d'arène, en fait. Bah, on a eu ça en première génération.
Giovanni. Ouais,
voilà. On a eu ça en première génération, mais on va dire c'était l'inverse. Et on arrive à Jadiel, c'est « Oh, mais Giovanni, il est de retour !» Alors qu'en fait, par exemple, bah, un champion que t'affrontes et que tu rencontres dans le jeu, à la fin, tu dis « Oh, bah mince, je l'ai battu au début avec mes Pokémon niveau 10, et là, maintenant, c'est le grand méchant et tout. » Après, il faut que ce soit bien amené, évidemment. Mais oui, c'est ce que j'avais bien apprécié dans Légende. Alors, c'est pas des champions d'arène, mais les personnages emblématiques, les gardiens, par exemple, ben, on les voit quand même assez souvent. Il y en a qui reviennent, qui nous aident. Et voilà, je trouvais qu'ils avaient un rôle un peu plus prononcé. Et tu vois, cette dose-là, ça me convient.
Alors, j'aimais bien, effectivement, en termes de rôle. Après, je trouve qu'en termes de personnalité, oui. Ils n'étaient pas hyper bien travaillés dans Légende. Peut-être Camille et son côté très, très rival qui était pas mal. Mais pour le reste, il y en a beaucoup quand même qui ont pas ou peu de personnalité, en fait, au final, oui. Ou qui se résument en un mot. Et c'était un petit peu dommage, effectivement. Donc, peut-être creuser... Ça demande quand même de creuser davantage les personnages pour pouvoir les intégrer davantage à l'histoire.
Mais de toute façon, c'est un peu le défaut de Légende. Il y a plein de bonnes idées, mais pas assez creusées. Donc, faudrait justement passer un peu plus de temps pour continuer de la lancer.
Alors, évidemment, moi, dans ma petite liste de champions, j'ai été énormément marqué par la première génération. Aussi, bah, parce que c'est les champions qu'on connaît le plus, notamment Pierre et Rondine, à cause de l'animé. Mais c'est aussi à cause de l'animé que une de mes championnes préférées, c'est Morgane, donc la championne du type psy à Safrania. Parce que je sais pas si tu te souviens l'épisode de l'animé où Sacha et ses amis affrontent Morgane. Oui. Morgane est une psychopathe.
Oui, oui, elle fait peur, hein.
Avec une poupée qui a failli tuer en fait Sacha et ses amis, on s'en rend pas compte, elle les a réduits en miniature, ils étaient petits, et elle essaie de les écraser avec une balle géante du coup à la fin, mais tu te dis, mais avec le recul, c'est un épisode qui est complètement insensé par rapport au reste, mais c'était la première saison qui était un petit peu plus foutraque finalement que de Pokémon, mais du coup voilà, j'aimais ce côté le côté dark en fait du côté psy, qui est quelque chose qui est un petit peu disparu maintenant avec l'apparition évidemment du type ténèbres,
oui.
Mais c'était Morgane était assez cool avec la télékinésie, ce genre de choses, enfin, c'était assez sympa. Et évidemment, en deuxième génération, celle qui nous a tous marqués, à mon avis, peut-être davantage pour le combat, et peut-être aussi d'ailleurs sa réaction après le combat qui est assez drôle, c'est Blanche, la championne de Doublonville de type normal, qui a priori est un type assez classique, mais qui est pourtant... une des pires championnes de tous les jeux de Pokémon, parce que son écrémeux est un tueur, quoi, il faut le dire, avec sa fameuse roulade, le terrible écrémeux de Blanche, qui refuse de nous remettre le badge à l'issue du combat quand elle perd. Elle pleure, elle ne veut pas nous remettre le badge. Donc il faut faire semblant de partir et puis retourner lui parler pour pouvoir obtenir le badge. Donc, je trouvais ça assez fort quand même.
Oui, c'était... mine de rien, ça reste un bon souvenir, parce que avec le recul, en connaissant le combat, ça se passe bien, mais à l'époque, quand on rencontrait Blanche pour la première fois, on n'avait pas l'habitude, ça faisait vraiment un pic de difficulté à ce moment-là, avec son écrémeux. Fallait parfois retourner faire de l'expérience, parce que c'était trop juste, et oui, et puis après, elle faisait son caprice de petite fille, je trouvais ça marrant,
ouais. C'est que la troisième, je crois que c'est la troisième, hein, je crois que c'est que la troisième arène de Or et Argent, puisqu'on a eu Mortimer avant et Hector en premier, du coup. Hector insecte, Mortimer type spectre, puis Blanche donc type normal, ce qui était génial d'ailleurs.
Mortimer, c'est le quatrième, c'est d'abord vol et ensuite insecte.
Ah oui, t'as raison, vol.
Oui,
vol. Et vol, c'était...
Albert.
Comment il s'appelait ? Albert, oui, elle. Et voilà, elle, Albert. C'était génial d'ailleurs de faire 8 arènes complémentaires aux 8 arènes de Kanto.
Oui.
Ça, c'était,
oui, c'était
vraiment...
bien.
Ah, la deuxième génération, c'est quand même un petit bijou. Je trouve d'ailleurs quand même que la huitième génération, pour le coup, les champions étaient vraiment pas mal. Enfin, autant il y en a que je trouve insupportables, comme Kabu, le type feu, pas très intéressant, cette manière de trottiner qui m'agace. Mais pour le reste, je trouve qu'il y a pas mal de champions qui sont vraiment, vraiment bien. Il y a un super design, je pense à Percy, je pense surtout aussi à Sally et à Peterson. Peterson, je l'adore, donc champion de type ténèbres. Sally, champion du type fée, qui est une vieille zinzin, on peut le dire, qui a un look assez fou. Je trouve vraiment qu'on a eu un truc très sympa. Bon, à côté, t'as des personnages un peu moins intéressants comme Chaz ou plus attendu comme Faiza, mais t'as aussi Alistair par exemple sur le type spectre, qui a un style vraiment pas mal, ou encore Roy pour le type combat. Enfin, je trouvais vraiment qu'en termes de champion, la 8ème génération avait réussi à proposer des personnalités intéressantes.
Oui, c'est vrai, c'était pas mal. En plus, on pouvait les revoir après, notamment dans le grand tournoi de la fin. Et oui, j'avais bien aimé Roy, par exemple, oui, avec son selfie, son côté beau gosse qui passe du temps pour ses fans. C'était pas mal. Oui, limite, en fait, ceux qui étaient les moins travaillés, c'était les champions spécifiques aux versions. Donc d'un côté, Faiza et Alistair, et de l'autre, Chaz et Lona.
Lona.
C'est ça. Lona, d'ailleurs... Avec son nom en japonais ainsi qu'en anglais, qui a une référence à son physique. Voilà, c'était un petit humour japonais. Parce qu'en gros, en japonais, elle s'appelle Melon. C'est une référence parce que c'est une femme assez...
plantureuse.
Voilà, c'est une référence à sa poitrine. Voilà, c'est une petite blague japonaise. Et...
de bon goût.
Voilà.
On peut le dire. Ce que j'avais bien aimé aussi dans les remakes de Perle et Diamant, donc Diamant étincelant et Perle scintillante, c'était les rematchs, et qu'on avait déjà d'ailleurs dans la version platine grâce au Café Combat. Et je trouve que les rematchs des champions permet de leur donner plus d'ampleur, parce que ça leur confère une véritable équipe, en fait. Parce
oui.
que à chaque fois, forcément, les champions des premières arènes avec leurs pauvres Pokémon de niveau 10 ou 20, t'as envie de dire zéro personnalité, en fait. Donc là, ce serait bien que pour Écarlate et Violet, ils puissent refaire ça. Il faut que ce soit une habitude qu'ils prennent pour chaque épisode canonique, parce que de un, c'est pas compliqué, et de deux, c'est tellement, tellement bien. On y avait eu droit aussi, d'ailleurs, dans Let's Go, et c'était vraiment très cool.
Oui. Ça permet aussi de réutiliser les personnages, redonner du challenge, donner un peu plus d'épaisseur, et leur donner des équipes complètes aussi, parce que quand on affronte des champions d'arène, généralement, ils n'ont que 3 Pokémon. Et c'est vrai que niveau challenge, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus relevé, mais oui, je suis d'accord avec toi.
Allez au boulot, Game Freak. Il vous reste un mois. Bon, le jeu est quasiment terminé, là. Gold, à mon avis.
Oui.
Là, ils doivent être en train d'imprimer les cartouches. Merci à tous d'avoir écouté ce 3e épisode de Poké Talk. Merci beaucoup, mon petit Malison, de m'avoir accompagné de nouveau.
Merci beaucoup à toi. C'était un grand plaisir, comme d'habitude.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, retrouvez-nous sur le mur des podcasts de West France et dans la rubrique gaming sur le site westfrance.fr. À très vite, et puis je pense qu'on fera peut-être un dernier épisode avant la sortie des jeux, et après on se fera un bon débrief sur nos premières heures dans Pokémon Écarlate et Violet. Salut à tous.
Salut à tous.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si si vous avez aimé ce programme.